vous écoutez Radio France Internationale et vous avez bien raison, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel lors d'un nouveau journal.
Stéphane Genest.
Bonsoir à toutes et à tous. Et à la une de cette édition, l'offensive israélienne qui ne connaît pas de répit au Liban. À la tribune des Nations Unies, Benjamin Netanyahou a répété qu'il irait jusqu'au bout contre le Hezbollah. L'armée israélienne qui annonce ce soir de nouvelles frappes sur Beyrouth. Point complet dès le début de ce journal. Donald Trump promet de résoudre la guerre en Ukraine. Déclaration du candidat républicain à la présidentielle américaine après une rencontre avec Volodymyr Zelensky à New York. Au sommaire également, de la prison ferme pour deux militantes écologistes pour un jet de soupe sur les tournesols de Van Gogh à Londres. Et en Corée du Sud, une loi pour punir les cas de deepfake pornographique vient d'être publiée. Le premier ministre libanais accuse Israël de mener une guerre génocidaire après de nouveaux bombardements sur Beyrouth ce vendredi. L'armée israélienne explique avoir frappé le quartier général du Hezbollah dans la banlieue de la capitale libanaise, plusieurs immeubles détruits. Il y a quelques minutes, l'armée israélienne a annoncé de nouvelles frappes sur Beyrouth. Le premier bilan provisoire fourni par les autorités fait état de 2 morts et de 79 blessés. Mais les dégâts causés par les explosions semblent très importants, Anastasia Becchio.
Oui, les secouristes fouillent les décombres des bâtiments effondrés dans ce quartier chiite, densément peuplé. 6 immeubles ont été détruits par les bombardements massifs, selon une source proche du Hezbollah, citée par l'AFP. Les forces de défense israéliennes affirment qu'elles ont visé un centre de commandement du Hezbollah localisé sous des immeubles d'habitation. Selon plusieurs médias israéliens, le chef du Hezbollah était la cible de la frappe. Son sort demeure incertain. Une source proche du mouvement islamiste a affirmé à l'AFP qu'il allait bien, mais il n'y a pas eu de communication officielle. Le journal libanais L'Orient Le Jour évoque une situation très tendue. Le bureau de presse du Premier ministre a démenti des informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il avait appelé le gouvernement et les forces de sécurité à annoncer l'état d'alerte maximale. Dans un premier communiqué après ce bombardement, le Hezbollah dit avoir frappé le nord d'Israël avec une salve de roquettes sur la ville de Safed, où une maison a été touchée, selon les autorités israéliennes. Le mouvement islamiste revendique par ailleurs des attaques sur Sa'er et Carmiel, plus au sud. C'est la première fois que cette localité est visée, selon L'Orient Le Jour. Et Israël annonce ce soir de nouvelles frappes contre le Hezbollah.
Le point sur la situation avec Anastasia Becchio en direct dans le journal. Merci beaucoup. Et alors qu'Israël bombarde Beyrouth et sa banlieue, le premier ministre de l'État hébreu Benjamin Netanyahou a pris la parole tout à l'heure à l'Assemblée générale des Nations Unies. Un discours qui était attendu, mais il n'y a pas eu de surprise. À la tribune, Benjamin Netanyahou a rejeté tout cessez-le-feu au Liban et à Gaza. Il a aussi affirmé qu'Israël continuera jusque tous les objectifs soient atteints. Ce sont ses mots. Le premier ministre israélien qui, après son discours, a quitté les États-Unis, écourtant ainsi son voyage alors qu'Israël frappait la capitale libanaise. On reste aux États-Unis puisque c'est une rencontre très délicate qui s'est achevée tout à l'heure, une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Rencontre entre l'ancien président américain, candidat républicain à la présidentielle, et l'actuel président ukrainien. Ça s'est passé donc tout à l'heure à New York, plus précisément à la tour Trump, Guillaume Nodin.
Moins de 24 heures, c'est le laps de temps entre le rendez-vous de Volodymyr Zelensky avec la candidate démocrate Kamala Harris et ses retrouvailles avec Donald Trump 5 ans après leur dernière rencontre. Une sorte de grand écart entre un soutien quasiment inconditionnel dans la guerre face à la Russie et un échange avec un partenaire beaucoup plus critique, mais Volodymyr Zelensky ne peut pas vraiment faire autrement.
Nous comprenons que jusqu'en novembre, nous ne pourrons pas arrêter Poutine. Nous devons le faire, nous essaierons sur le champ de bataille avec nos soldats héroïques. Mais nous comprenons qu'après novembre, il faudra prendre des décisions et nous espérons que les États-Unis seront très forts et nous comptons sur eux. C'est pourquoi j'ai décidé de rencontrer les deux candidats.
Malgré ses reproches récurrents au président ukrainien, Donald Trump semble apprécier ce moment et réitère ses promesses.
Nous avons une très bonne relation. J'ai aussi une très bonne relation avec le président Poutine et je pense que chacun joue un rôle dans cette situation. Si nous gagnons l'élection, je pense que bien avant le 20 janvier, avant que je sois officiellement président, nous pouvons trouver quelque chose qui soit bon pour les deux parties.
Pour l'instant, les positions russes et ukrainiennes sont si radicalement opposées que la guerre dure depuis près de 3 ans. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Le sud-est des États-Unis qui pense ses plaies au lendemain du passage de l'ouragan Helene. 33 personnes y ont perdu la vie d'après un dernier bilan. Plus de 4 millions de personnes sont actuellement sans électricité. Helene, qui a été reclassée en tempête tropicale et qui poursuit sa route dans le sud-est des États-Unis, mais elle continue de déclencher des inondations massives. Les vents forts et les pluies diluviennes provoquent encore des crues soudaines et des chutes d'arbres. RFI 22h05 à Bruxelles. Le pape François, qui poursuit sa visite en Belgique. À cette occasion, le souverain pontife a assuré tout à l'heure que l'Église devait, je cite, « avoir honte et demander pardon pour les violences sexuelles sur mineurs commises par des membres du clergé ». Déclaration alors que les attentes des victimes belges sont fortes dans le pays, marquées par de nombreux scandales. Le pape François assure aussi faire tout son possible pour que ces faits ne se reproduisent pas. Direction le Royaume-Uni à présent, puisque des militants écologistes du groupe Just Stop Oil ont aspergé ce vendredi de soupe deux tableaux des tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres. Une action juste après la condamnation de deux activistes à de la prison ferme pour des faits similaires. En octobre 2022, ils avaient jeté de la soupe sur ce chef-d'œuvre des tournesols dans cette même National Gallery à Londres. Le célèbre tableau n'a certes pas été endommagé car protégé par une vitre, mais seul le cadre a subi des dommages mineurs. Mais pour autant, le juge londonien a voulu faire de ce procès un exemple, Stéphanie Schuller.
Vous n'aviez tout simplement pas le droit de faire ce que vous avez fait au tournesol. Et votre arrogance à prétendre le contraire mérite la condamnation la plus ferme, a déclaré le juge londonien avant de condamner Phoebe Plummer et Anna Holland à respectivement 2 ans et 20 mois de prison ferme. Les deux jeunes femmes avaient fait valoir leur droit à la désobéissance civique et pacifique, garantie par le droit international, pour exiger la sortie des combustibles fossiles d'ici 2030. Mais au Royaume-Uni, de nouvelles lois régressives ont été adoptées. Fiona, membre du groupe Just Stop Oil.
Les lois sur le droit de manifester ont été influencées par ExxonMobil, l'une des plus puissantes et riches compagnies de combustibles fossiles au monde. L'entreprise a donné de l'argent à un think tank de droite et l'ex-premier ministre Rishi Sunak a reconnu qu'ExxonMobil avait aidé à rédiger les lois anti-manifestation qui permettent aux juges de réduire les gens au silence. C'est effrayant que ceci soit la réponse du gouvernement aux jeunes qui tentent de se protéger.
Michel Forst, rapporteur spécial de l'ONU, dénonce régulièrement la répression des défenseurs du climat en Grande-Bretagne. Peu après le jugement, les tournesols de Van Gogh ont de nouveau été pris pour cible par des militants de Just Stop Oil, dont 25 membres sont désormais derrière les barreaux.
Les explications de Stéphanie Schuller du service environnement climat de RFI. On poursuit cette édition en Corée du Sud, puisqu'un mois après le début du scandale des deepfakes pornographiques, la loi coréenne s'adapte à cette nouvelle forme de harcèlement. Au mois d'août avait été révélé, je vous le rappelle, un vaste réseau d'échanges de fausses vidéos à caractère sexuel, vidéos modifiées par intelligence artificielle mettant en scène des femmes, cette fois bien réelles, y compris des mineurs. Correspondance à Séoul, signé Célio Fioretti.
Un vote presque à l'unanimité pour rapidement adapter la loi coréenne à cette forme de harcèlement qui évolue aussi vite que la technologie. Le scandale des deepfakes pornographiques avait révélé le manque total de loi dans ce cas de violence sexuelle en ligne, qui n'était donc pas condamnable. Désormais, la possession, revente et consommation de plein gré de ce type de contenu est sanctionnée d'au moins 3 ans de prison et 22 000 euros d'amende. Un progrès poussé aussi bien par le gouvernement que l'opposition. Ce texte rend par ailleurs l'État responsable de la suppression de ces vidéos en ligne et l'oblige aussi à ouvrir des centres d'aide aux victimes. Des centaines de milliers de Sud-Coréennes, y compris des mineurs, disent avoir été victimes de ce genre de harcèlement. Si la loi évolue, la question reste en suspens sur l'application de celle-ci. La Corée du Sud dispose déjà de sanctions contre d'autres formes d'agressions sexuelles, mais les peines sont rarement appliquées. D'après une étude de 2019, 60% des affaires de viol se concluent par un sursis pour l'accusé. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
En France, 2 nouveaux ministres intègrent le gouvernement de Michel Barnier. D'abord, Charlotte Parmentier-Lecoq, nommée ministre déléguée aux personnes en situation de handicap. Et puis Jean-Louis Thériault, lui auprès des armées et des anciens combattants. Tous les deux ont été nommés tout à l'heure, 6 jours après la composition officielle de l'équipe gouvernementale de Michel Barnier. Gouvernement qui était réuni donc cet après-midi en séminaire. Et puis un petit mot de football pour refermer ce journal avec l'ouverture de la 6e journée de Ligue 1 ce vendredi. Un peu plus tôt dans la journée, Auxerre s'est imposé 3-0 face à Brest. En ce moment, le Paris Saint-Germain reçoit Rennes. Ça joue depuis 51 minutes tout pile. Les Parisiens qui mènent 1-0 au Parc des Princes, but de Bradley Barcola à la 30e minute. C'est ainsi que se referme ce journal 22h10 ici à Paris. Tout de suite, Couleur Tropicale avec Claudie Ciard sur RFI.